Les pieds sur terre, quartier d'été, Sonia Kronlund.
Personne ne sait ce qui se passe aujourd'hui parce que personne ne veut qu'il se passe quelque chose.
Cet après-midi-là, le Centre Georges Pompidou et France Culture s'étaient réunis pour essayer d'imaginer à quoi ressemblerait la France dès demain, pour s'interroger sur l'avenir de notre pays et aussi le faire résonner avec son passé. Être français ou pas, ce que ça veut dire, ce que ça fait comme effet, ce que c'est que ce pays, spécifiquement dans ses frontières intellectuelles, mentales, sociales, imaginaires. Ce sont des questions qu'on se pose rarement comme ça, dans les pieds sur terre, ce n'est pas trop notre angle, comme on dit, mais on s'est dit finalement, pourquoi pas. Ça a donné donc en 2017 la 6e édition des Pieds sur scène, des histoires vraies racontées sur scène par ceux qui les ont vécues. Geoffrey Carré raconte tout de suite comment et pourquoi il est arrivé en France et a dû tourner une scène de sexe avec Isabelle Adjani. Boris Picanonacci est un jeune trader et il raconte la chute de la Maison France en 2008 et ce qui s'en est suivi pour lui. Lise Gomis, elle, évoque le souvenir d'une scène avec sa mère dans les bureaux de notre bien française Sécurité sociale. Nos vies françaises, ce sont des histoires mises en récit et en scène par Delphine Saltel. C'est le premier volet tout de suite pour Ses pieds sur terre, quartier d'été, des histoires vraies racontées sur scène par ceux qui les ont vécues. C'est parti.
En réalité, on ne sait jamais ce qui se passe, on sait simplement ce qu'on veut qu'il se passe. C'est comme ça que les choses arrivent.
J'ai grandi à Hollywood pendant des années 50. Mon père était un acteur de cinéma assez célèbre. Il s'appelait Philip Carey. Il jouait surtout dans les westerns. Les gens l'adoraient. Chez moi, autour de la piscine, il y avait des gens comme Gary Cooper et John Wayne qui jouaient des cowboys comme lui. Mon père était particulièrement beau, grand et musclé. Il ressemblait beaucoup à Charlton Heston. Moi, enfant, j'étais très très vilain. Mon père a toujours pensé qu'il y avait une erreur de couveuse, comme j'étais né très prématuré, et qu'il y avait une infirmière étourdie qui avait échangé par erreur des bébés. Mon père ne voulait pas croire que j'étais son fils. Et comme à l'époque, il n'y avait pas encore des tests ADN, mon père ne pouvait pas vérifier. Il en parlait tout le temps, surtout devant moi. Mon père avait une idée très virile de ce que devait être un garçon. Il avait le culte californien de corps parfait. Il entretenait ses abdos, ses biceps, son bronzage. Il aurait adoré que je joue au baseball avec lui et me donner des grandes bourrades masculines. Mais moi, j'avais un appareil dentaire, j'avais des boutons, un corps trop grand, je bégayais, j'étais malingre, pâle, bigleux et très mauvais en sport. Mon père ne savait pas quoi faire de moi. Dès que mon plus jeune âge, mon père était persuadé que j'allais devenir homosexuel. Quand il me regardait, il me disait « Mais t'es pédé, toi !» Parce que je faisais des grands gestes comme ça. J'avais 4 ans et je ne savais même pas ce que ça voulait dire « faggot » ou « fairy ». Mais j'ai très vite compris, en présence de mon père, il fallait pas trop bouger les bras. Je restais les poings serrés tout le long de mon corps. C'était comme un jeu pour moi pour lui faire plaisir. Et quand les paparazzi voulaient le prendre en photo, mon père me demandait toujours de me éloigner du cadre. J'avais pas le droit de l'appeler papa en public. Je l'appelais monsieur. Aussi à la maison, toute la longue de sa vie. Heureusement pour moi, j'étais pas tout seul. J'avais une grande sœur qui était toujours très déprimée, qui avait tendance de se consoler avec la nourriture, qui avait un problème de surpoids. J'avais une jeune sœur qui avait un problème orthopédique qui marchait les pieds en dedans avec une attelle de rééducation. Ma mère était sublimement blonde. Tout le monde disait qu'elle ressemblait à Michel Morgan. Et le soir de première, sur le tapis rouge, quand nous arrivions en famille, tout le monde disait « Mais qui c'était ces trois monstres derrière ce couple de rêves ?» J'ai eu une fois l'occasion de trouver grâce aux yeux de mon père. C'était pendant la guerre de Vietnam. J'avais 19 ans. Et à cette époque, c'était un système de loterie. On était appelé au hasard. Et un jour, un recruteur de l'armée me téléphone et il a dit « On a besoin de vous ». Mon père était surexcité. Je crois que c'est la première fois de sa vie qu'il était fier de moi. Mon père était comme un fou à l'idée que je deviens un héros national. Il a même organisé une fête avec ma grand-mère pour ma mobilisation. Je suis allé pour passer l'examen médical à l'hôpital militaire pour être déclaré apte. J'étais ravi parce qu'à Hollywood, je vivais comme dans une bulle. Et cette fois, j'étais bien décidé, j'allais devenir un héros viril et courageux. Alors, je suis allé passer les visites médicales, mais sans mes lunettes parce que je voulais faire le beau. Et alors, en entrant, je me suis pris le porte vitrée en pleine figure. L'équipe médicale a vite compris que j'étais complètement myope et en plus que j'avais un décollement de rétine. Le capitaine, le chef médecin me dit « Monsieur, vous êtes pire que l'ennemi. Si on vous donne un fusil, vous allez tuer nos propres soldats. » Donc, il m'a déclaré 4F, c'est-à-dire handicapé physique. Le médecin, quand il m'a donné le tampon sur mon dossier, il pensait me faire plaisir en me évitant d'aller sur le terrain, mais j'étais catastrophé. Je suis allé dans une cabine téléphonique pour appeler mon père. Je dis « Désolé, monsieur, il faut annuler le fait. Je suis 4F. » Je crois que ça l'a achevé. Mais c'est très drôle, enfance, parce que même avec tout ça, j'ai aimé énormément mon père. J'étais très fier de lui. Il était comme un dieu pour moi. Et c'était la dernière fois, j'ai essayé de lui faire plaisir. Je lui ai avoué que je voulais être acteur aussi. Je voulais lui ressembler, que j'avais pris les cours de théâtre en cachette pendant plusieurs années. Et mon père a dit, « Vous êtes trop moche. » Vous arriverez jamais ici, foutez le camp de Hollywood. Alors, je suis parti en France pour finir mes études et peut-être faire du cinéma. Et j'ai jamais plus remis les pieds à Hollywood, ma ville natale. Et quand je suis arrivé en France, le premier rôle que j'avais, c'était dans un film avec Isabelle Adjani. Je devais jouer une scène de sexe au lit. Il fallait que le type soit quelqu'un qu'elle aurait attrapé au hasard, au passage, sans faire trop attention, pas vraiment une sex symbol. Et dans le film, le personnage que Isabelle jouait allait tellement mal qu'elle couchait avec n'importe qui, moi. Mais le problème, c'était j'avais 22 ans et j'étais encore vierge. J'avais aucune idée de comment se déroulait un rapport sexuel vraiment. Quand je suis arrivé sur le tournage, Isabelle Adjani était absolument sublime, en pleine gloire. Elle a regardé ce garçon, moi, ce pauvre garçon inoffensif, et très bizarrement, elle a dit « Parfait ». Le metteur en scène m'avait demandé de venir pour me préparer pour la scène. Il a dit « Monsieur, s'il vous plaît, enlevez votre chemise. » Silence de mort. Après, il a dit, bon, s'il vous plaît, remettez votre t-shirt, chemise. J'étais très, très maigre. Isabelle est arrivée, elle s'est installée sous les couvertures et le metteur en scène a dit, s'il vous plaît, monsieur, mettez-vous sur madame, action. J'étais terrorisé. La poitrine d'Isabelle Adjani était absolument magnifique. Je n'osais pas le toucher. Je ne pouvais absolument pas bouger. Et le metteur en scène disait, « Mais n'ayez pas peur. Faites comme vous faites dans la vie. » Ça ne m'a pas beaucoup aidé. J'ai essayé de pousser quelques râles de plaisir qui sonnaient très faux. Après, j'ai eu l'idée de me mettre au-dessus de Isabelle, comme si je faisais des pompes militaires de haut en bas, les bras en suspens, comme un sportif. Isabelle m'a malaxé les fesses et poussé quelques petits cris. La scène était plus comique qu'érotique. Sur le plateau, l'équipe était complètement consternée. Et quand Isabelle a vu l'étendue des dégâts, mon incapacité totale de faire une scène au lit, elle était ravie. Elle me chuchotait, c'est très bien. On a fait encore quelques prises, toutes plus catastrophiques les unes que les autres. À la fin, Isabelle et Gianni me serraient la main en me regardant dans les yeux. Elle a dit merci infiniment. J'ai fini par comprendre que Isabelle était en conflit avec la production, que depuis le début du tournage, elle ne voulait pas tourner cette scène de sexe. Et du coup, elle était très ravie quand elle a vu ma performance. C'est sûr que la scène sera coupée au montage. Et ce jour-là, c'était le premier jour de ma vie que quelqu'un m'avait aimé pour ce que j'étais alors, un jeune garçon maladroit et un peu disgracieux. C'était mes débuts en France.
Dans ma famille, c'était toujours ma sœur aînée qui accompagnait ma mère dans ses démarches auprès de l'administration française. Quand j'ai eu 16 ans, elle m'a demandé de l'accompagner à la caisse d'assurance maladie. J'étais fière de pouvoir l'aider dans cette mission. On vivait au Mureau, dans un pavillon, près de la sortie de l'autoroute. Mon père était ouvrier chez Renault à Flins et ma mère, elle, était femme de ménage dans des collectivités. Elle prenait le bus à 5 heures du matin, elle revenait à 10 heures, dormait un peu, elle préparait le déjeuner, parfois même le dîner. Elle repartait à 16 heures et rentrait vers 22 heures quand tout le monde dormait. En gros, elle n'avait pas de vie, ou plutôt une vie de chien. Je m'en rendais pas bien compte, parce qu'à l'époque, elle ne se plaignait jamais de ses horaires de fou, ni même de la charge de travail ou des tâches à effectuer. Mais au bout de 30 ans, à répéter les mêmes gestes chaque jour et à manipuler des produits ménagers sans gants de protection, elle a fini par avoir un problème au canal carpien. Ses mains étaient paralysées et abîmée par les produits détergents. Alors le médecin traitant a entrepris de monter un dossier de maladie professionnelle, et c'est vite devenu une épopée administrative. La Sécu demandait toujours plus de pièces justificatives, son dossier était bloqué. Alors elle a entrepris de prendre les choses en main, et de se présenter en personne à la CPAM, pour essayer de faire bouger les choses. On a attendu un long moment dans le couloir, pour être finalement reçu par une employée. On a très vite compris qu'on n'était pas tombé sur la bonne personne. C'était le genre revêche, impatiente. En gros, sur sa tête, c'était écrit « mépris ». Comme je sens que la situation va pas être facile, je lui parle très gentiment. J'expose la situation avec calme, clarté. Je fais mon numéro de bon élève, ça je sais faire. De belles phrases avec de grands mots. Pour lui montrer qu'on n'était pas ce qu'elle croyait. Mais ça n'a pas marché, visiblement. Elle s'est tournée vers ma mère et lui a lancé « Madame, vous simulez ». Je pense que vous tentez une arnaque à la sécurité sociale. En gros, elle pensait que ma mère voulait profiter du système sans se fatiguer. Ma mère, elle ne parle pas bien le français. Elle ne sait ni lire ni écrire. Mais elle a très vite compris qu'à ce moment, cette femme, non seulement allait lui saboter son dossier, mais qu'en plus, elle l'a méprisé royalement. Et elle est restée là, sans rien dire, son dossier sur ses genoux, fermé. Et elle n'a pas répondu. Elle m'a demandé de ne pas contester ni d'argumenter. Pour moi, c'était... De voir ma mère se soumettre et ne pas tenir tête, c'était très bizarre. Parce qu'à la maison, c'était un peu l'autorité suprême, un personnage inflexible, d'une sévérité implacable. Parfois, devant elle, je tremblais. Quand j'avais quelque chose à lui demander, Je m'y prenais 5 heures à l'avance, je préparais mon discours dans mon coin, je me conditionnais mentalement pour l'affronter. Et je finissais par prendre mon courage à deux mains et je lui disais « Bon, maman, voilà le projet. Je vais aller à la piscine avec Nathalie Gilbert, on va prendre le bus et il me faudrait 6 francs. » Et là, c'était parti pour l'interrogatoire. Elle voulait tout savoir, tous les détails techniques, le pourquoi du comment, tout. Et en général, la réponse, c'était souvent non. Un non ferme, définitif, comme ça, bam, sentence. Elle ne justifiait jamais ses positions et il n'y avait rien à dire d'ailleurs. Il ne me venait même pas à l'esprit de contester. Et de la voir rester stoïque comme ça devant cette femme qui l'a traitée de menteuse, pour moi c'était incroyable, je tombais des nues. C'était même insupportable. Alors j'ai pris ses mains crispées et abîmées, et j'ai hurlé sur la dame en lui disant « Et ça c'est quoi ? C'est du maquillage pour arnaquer la sécu peut-être ?» J'ai tapé un scandale, j'étais hors de moi. J'allais en référer à ses supérieurs, j'allais écrire des courriers, je ne pouvais pas accepter qu'on puisse nous mépriser de la sorte. Pour qui se prenait-elle pour parler à ma mère comme ça? À la maison, ma mère, il lui suffisait d'un regard pour nous clouer sur place. On filait doux avec mes frères et sœurs. Quand on recevait nos bulletins, j'étais convoquée à la table de la cuisine et il fallait que je lui lise à haute voix les appréciations. Et c'était même pas la peine de penser, de sauter une mauvaise note en dessin ou cacher une mauvaise appréciation. Elle savait me démasquer. Avec ce regard infaillible, elle avait réussi à mettre en place une sorte d'autorité à distance. Aujourd'hui, j'ai 36 ans et encore aujourd'hui, je pense à elle quand j'ai à prendre une décision. Adolescente, quand toutes les copines fumaient, moi je pensais à ce regard et je pense que c'est grâce à ça que je ne m'y suis jamais mise. L'idée de penser qu'elle puisse me jeter ce regard avec une cigarette à la bouche, ça me suffisait pour me faire passer l'envie. Et quand elle m'a vue dans tous ces états, dans ce bureau de la sécurité sociale, ma mère m'a jeté ce fameux regard qui m'a ordonné de me taire immédiatement et de rester polie avec la dame. Pour elle, on n'avait pas les moyens de faire un scandale dans une administration. Même après 30 ans de vie en France, elle pensait qu'elle était encore invitée. Elle aurait aimé me tirer par le bras en reprenant son dossier et partir vite, parce qu'à la fois pour elle c'était honteux et irrespectueux. Mais moi je me sentais chez moi. Je me disais qu'on avait des droits et j'entendais bien les faire respecter. Alors pour la première fois, j'ai dit à ma mère non. Je lui ai dit non, ça ne se passera pas comme ça. Alors on a remonté le dossier avec le médecin, on a écrit des lettres de contestation avec ma sœur, et elle a fini par obtenir gain de cause, 5 ans après. Elle était contente, mais j'ai senti qu'elle ne serait jamais rassurée, parce qu'au fond, elle avait toujours peur qu'on lui dise de repartir.
Le lundi 6 octobre 2008, nous sommes 3 semaines après la faillite de Lehman Brothers et moi je suis trader depuis 6 ans dans une grande banque française. Durant ces 3 semaines, j'ai perdu des dizaines de millions d'euros, mais pour le moment, ils sont encore compensés par mes gains depuis le début de l'année. Et puis je me dis que le pire est passé parce que après la faillite d'une des plus grandes banques d'investissement au monde, je vois pas bien ce qui pourrait arriver de plus grave. Alors le matin, j'arrive au bureau avant l'ouverture des marchés. Et puis le problème, c'est qu'à 9h, bah, bim, ça recommence. Paris, Francfort, Londres ouvrent en forte baisse. Et moi, bah, je m'enfonce dans mon siège, les yeux rivés à mes 4 écrans d'ordinateur et puis au tableau Excel où sont résumées mes positions. Mes positions, justement, c'est un portefeuille que dans notre jargon on appelle un book de vol, c'est-à-dire un portefeuille de volatilité. Je parie pas simplement sur la valeur des actions, mais sur le fait qu'elles bougent beaucoup ou pas, qu'elles sont volatiles ou non, justement. Bon, comme le pire est, selon moi, passé, je me dis que les marchés vont finir par se calmer, alors je continue de vendre de la volatilité. Bon, à ce moment-là, je vous l'avoue, je pensais que c'était encore possible pour moi d'avoir un bonus en fin d'année. Quand j'étais petit, j'étais comme tout le monde. Hein. J'ai rêvé d'être pompier, ensuite j'ai rêvé d'être basketteur, et puis rappeur, après j'ai voulu même être acteur. Et puis petit à petit, ben, mes rêves d'enfant, je les ai oubliés. Et mon seul rêve, c'est devenu de gagner de l'argent. Je voulais pouvoir partir au ski tous les ans avec ma femme et les enfants, et puis la ski, ben, c'est cher. Alors à midi, je vois tous les indices boursiers de la planète s'effondrer, Moscou perd 15%. Mais moi j'y crois encore, je me dis qu'il faut garder mon cap, qu'il faut pas céder à la panique. Alors j'augmente le volume de mes positions en misant sur le rebond. Je passe des coups de fil, je prends des positions et puis des risques aussi forcément. Alors à la fin de la journée, cette journée du 6 octobre, le lundi 6 octobre 2008, j'ai perdu 10 millions d'euros en une journée. Voilà, cette fois j'étais dans le rouge pour la première fois de ma vie de trader. Alors le soir, je prends le RER pour rentrer chez moi. Évidemment, je suis un peu sonné, mais j'essaie de garder mon calme. C'est l'essentiel sur les marchés financiers. Je veux dire, faut pas céder à la panique, c'est une règle de base. Donc je me dis que je peux encore me refaire. Bon, j'arrive chez moi, ma femme m'ouvre la porte en souriant. Alors du coup, j'essaie de prendre un air un peu détaché. Je lui dis un truc du genre « Bonsoir chérie, qu'est-ce qu'on mange ce soir ?» Un peu comme dans un téléfilm. Et puis on mange du poisson, on boit du vin blanc. Bref, j'essaie de pas penser aux 10 millions. Le lendemain, je retourne au bureau. J'ai une boule au ventre. Mais j'essaie de garder mon style décontracté. On me l'a souvent reproché d'ailleurs par la suite d'avoir traversé toute cette période avec trop d'assurance, voire de l'arrogance. Je faisais des blagues avec ma grande gueule, c'est mal passé. Mais bon, moi en fait, j'essayais juste de garder la face. Je me répétais ce truc en boucle. Voilà, pas céder à la panique, garder son cap. Mais en fait, méthodiquement, calmement, j'allais droit dans le mur. Chaque journée de cette semaine d'octobre 2008, je me disais que le pire tsunami de la planète, du siècle, est passé. Et en fait, non, chaque journée était pire que la précédente. Je prenais que des mauvaises décisions. Alors je voyais bien qu'on commençait à me demander des explications. Il y a les types de la cellule des risques, de la salle des marchés, qui sont venus me voir, ils étaient un peu affolés, ils se demandaient pourquoi je continuais à prendre des risques dans une telle conjoncture. Mais c'est que moi, je pensais que c'était la seule manière d'avoir une chance de s'en tirer, de traverser la crise, et puis que mes supérieurs m'en sauraient gré. Bon, d'ailleurs, à ce moment-là, les consignes de mes supérieurs étaient floues, hein, les mecs se mouillaient pas trop. La seule consigne, c'était préserver l'intérêt de la banque. Préserver l'intérêt de la banque, si vous voulez, c'est un peu comme être à la mi-temps d'un match dans le vestiaire et puis que la seule consigne du coach ce soit « Bon, les mecs, c'est pas compliqué, il suffit de pas perdre. » Ah, merci. Alors pendant ce temps-là, les mouvements ahurissants des marchés financiers font sortir mes positions des limites de risque qui me sont fixées. Donc j'utilise des instruments de plus en plus sophistiqués, de plus en plus risqués. Mon cerveau tourne en sur-régime, dans le vide. Et puis je continue à sourire, je fais des blagues à Caroline, c'est une collègue qui me plaît, et puis qui me regarde me cracher tranquillement. Eux, les indices, ils continuent leur chemin, il n'y a qu'une seule direction, c'est la cave, quoi, comme on disait. C'est-à-dire que c'était le crack à Tokyo, il y avait l'action de la Royal Bank of Scotland qui perdait 30%, Paris et Londres qui dévissent. Et puis ma vie à moi, elle a basculé vraiment le 10 octobre. Parce que depuis une semaine, les plans de sauvetage des banques centrales faisaient faire le yo-yo aux marchés financiers. C'était plus des marchés financiers, c'était les montagnes russes, plus personne comprenait rien. Du coup, la banque décide de couper l'intégralité de mon portefeuille, de vendre toutes les positions. C'était le pire moment pour le faire, mais bon, j'avais pas le choix. Et puis, couper à ce moment-là, pour moi, c'était comme m'amputer des quatre membres et puis me laisser que mes yeux pour pleurer. À ce moment-là, j'évalue le montant des pertes, ça va faire 100 millions d'euros. Là, je prends la mesure, comme vous à l'instant, de l'ampleur des dégâts. Et j'ai peur, j'ai honte. Je propose ma démission à mon boss qui me dit d'attendre. On verra ça lundi, il me dit. Bon, alors on était vendredi soir, je rejoins ma femme. On devait rejoindre des amis à Deauville, passer le week-end. Bon, ça n'a pas été un week-end de folie, je vous avoue que c'est difficile d'être de bonne compagnie quand on vient de perdre 100 bars. Bon, le lundi, je retourne au bureau, on y voit un petit peu plus clair, je réévalue mes pertes, en fait, je perds plutôt 150 millions d'euros. Je craque et je pleure dans le bureau avec vue sur la Seine. Là, mon boss, il refuse toujours ma démission, il me demande de rester jusqu'au bout pour les aider à déboucler les positions. Alors là, je suis traîné de réunion en réunion pour expliquer mes erreurs, expliquer mes mauvaises décisions, expliquer ce qu'en fait j'étais incapable d'expliquer. J'avais l'impression d'être un boxeur sur un ring qui vient de prendre une dérouillée, puis qu'un journaliste sportif venait interviewer comme ça sur le ring encore plein de sang. Bref, ça a duré 3 jours. À la fin, j'étais plus là et la banque a fini de démanteler mon portefeuille. Et au bout de 3 jours, je reçois un coup de fil de mon boss qui m'appelle pour me donner le montant de l'addition. Ah elle était salée. 500 millions d'euros. Et encore, le montant a continué à monter dans les jours et les semaines qui ont suivi. Je l'ai appris par la presse pour atteindre 750 millions d'euros. J'ai été viré, forcément. La banque porte plainte. Et au bout de 4 années de procédure judiciaire, j'ai été condamné à 2 ans de prison avec sursis et 315 millions d'euros de dommages et intérêts. Qu'entre vous et moi, je paierai sans doute jamais. Voilà, ça c'était en 2008. Aujourd'hui, je suis professeur de mathématiques à l'université. Bon, évidemment, quand ils apprennent ce qui m'est arrivé, les étudiants me taquinent un peu. Mais bon, je leur réponds et ça me fait rire. Ça me fait ni chaud ni froid aujourd'hui. Voilà, aujourd'hui, je crois que tout cet argent, je m'en fous, en fait. Je me sens plus coupable, je me sens calme. Cette fois, c'est sûr, le pire est passé.
C'était Les Pieds sur scène, quartier d'été avec Nos Vies françaises, le premier volet de la 6e édition des Pieds sur scène, une série de récits enregistrés en public le 2 avril 2017 au studio 105 de la Maison de la Radio. Ces récits ont été mis en récit et en scène par Delphine Saltel. À la réalisation, il y avait Cécile Lafont avec un coup de main de Véronique Village. Jocelyne Devercher a coaché les intervenants. Merci également à Sylvain Gire, aux Presses de la Cité, à Sandrine Chaperon, à Virginie Noël, Olivier L, Patrick Muller, Jean-Louis Delonc, Stéphane Poitevin et aussi Jeanne Delecroix. Je trouve aussi son blasphème.